liturgie de la parole de ce mardi 10 décembre 2024, mardi de la deuxième semaine de l'Avent. Voici que le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. On verra ces jours-là une grande lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, tu as manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui apporte ton salut. Nous t'en prions, accorde-nous d'attendre dans la joie les jours glorieux de sa naissance. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Dieu console son peuple. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 40, du 1er au 11e verset. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclamez, et j'ai dit, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur de champ. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout, voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 18e chapitre du 12e au 14e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous l'ai dit, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père, qui est aux cieux, ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, mardi de la deuxième semaine de l'Avent. Le temps de l'Avent est un temps d'exercice spirituel, comme le sportif qui doit s'exercer, qui doit s'entraîner. C'est un temps d'exercice spirituel, de préparation spirituelle. À quoi? À deux choses. Nous nous préparons à célébrer la venue dans notre chair de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël, le 25 décembre. Nous commémorons la naissance de Jésus, sa venue dans notre chair. Mais nous nous préparons aussi, éventuellement, au retour éventuel, on ne sait pas quand, personne ne connaît ni les jours ni l'heure sauf le Père, le retour glorieux du Fils de l'homme à la fin des temps. L'Avent, c'est aussi cela. Ça nous prépare à la venue de Jésus dans notre chair, mais aussi à la venue de Jésus à la fin des temps. Voilà pourquoi la première lecture, l'antienne d'ouverture dit ceci, « Voici que le Seigneur viendra, et tous les saints avec lui, on verra ce jour-là une grande lumière. » Ce texte de Zacharie, Zacharie 14, 5 et 7, fait allusion au retour glorieux du Seigneur à la fin des temps. Et donc c'est cela le temps de l'Avent, un temps d'exercice spirituel, un temps de préparation. Nous préparons nos cœurs, nous préparons nos vies à accueillir le Christ, en commémorant sa venue dans notre chair, mais aussi à accueillir le Christ lors de son retour glorieux à la fin des temps. La première lecture, Isaïe 42, 1-11, nous montre comment est-ce que le prophète prépare son peuple à quelque chose de beau que le Seigneur a prévu pour eux. Le peuple se trouve déjà en exil. Et pour Isaïe, eh bien, ce temps d'exil est un temps provisoire. Ça passe. La souffrance passe. La maladie passe. La prison passe. Les épreuves de la vie passent. Il y a quelque chose de beau que le Seigneur vous a réservé. C'est ça le message de la première lecture. Dieu veut toujours le bien. Le bien pour son peuple, le bien de son peuple. Ce qu'il fait, c'est toujours pour le bien de son peuple. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Voilà pourquoi le prophète l'a dit, vous êtes en exil, mais ne vous en faites pas. Voilà. Élève ta voix avec force. Toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem, élève ta voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Message d'espérance. Voici votre Dieu. Le regard doit rester tourné vers Dieu. Dans des moments difficiles, regardez Dieu. Les épreuves de la vie doivent être vaincues. On ne peut pas le vaincre seul, c'est toujours avec Dieu, dans la prière, mais tout en faisant ce que nous devons faire concrètement pour que nous puissions nous en sortir. Voici votre Dieu, et donc le regard doit rester tourné vers Jésus, dans la prière, dans la méditation, et c'est lui qui est source de notre salut. Le prophète rappelle quand même au peuple ce que le peuple doit faire. C'est vrai, le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous. Au-delà des épreuves que vous êtes en train d'endurer, il y a quelque chose de beau. Parfois dans la vie, c'est comme ça. Quand vous traversez des moments difficiles, si vous vivez ça dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, ça va déboucher sur quelque chose de très beau, sur des grâces particulières. Vous allez passer des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Mais à part la foi, à part la prière, il faut aussi s'y mettre. Il faut se préparer, préparer nos cœurs à accueillir les grâces que le Seigneur nous réserve. Préparer nos cœurs à accueillir le Seigneur lui-même. Le prophète le dit avec ces mots, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Nous allons beaucoup entendre cela durant ces temps de l'Avent. Ces propos d'Isaïe, que Jean-Baptiste reprend, nous l'avons entendu les dimanches passés, abaisser les collines, les montagnes, tout ça. Tantôt c'est le Seigneur qui va le faire, tantôt c'est nous qui devons le faire. Là, que tout ravin soit comblé, toute montagne, colline abaissée. C'est-à-dire, les montagnes, les collines, ça symbolise aussi les épreuves, les difficultés que vous avez. Mais qui va abattre ces montagnes? C'est Dieu qui va le faire, mais il le fera avec nous. Et le texte d'Isaïe dit aussi, le Seigneur vient, son bras lui soumet tout. Rien ne peut résister au Seigneur. Les collines, les montagnes qui symbolisent les difficultés, les épreuves de votre vie, de nos vies, eh bien le Seigneur peut écraser tout cela. Il en est capable, mais il ne peut rien sans notre apport. Il faut de notre côté préparer nos cœurs, nous sanctifier. Les promesses du Seigneur se réalisent si nous évitons les péchés. Ça, c'est un postulat important dans la conception des Juifs, dans la théologie juive, théologie vétérotestamentaire de l'Ancien Testament. Là où il y a les péchés, les promesses de Dieu tardent à se réaliser. des bienfaits de Dieu tardent à se réaliser là où il y a des péchés. Là où l'homme évite les péchés, les promesses de Dieu peuvent se réaliser. C'est ce qui apparaît dans le Deutéronome et c'est ce que chacun de nous doit retenir durant ce temps de l'Avent. C'est le temps où nous espérons la réalisation des promesses de Dieu. Avant, c'est le temps d'espérance. Mais cela veut dire qu'il faut justement éviter les péchés, passer par la confession, se purifier pour que se réalisent les promesses du Seigneur, les bienfaits du Seigneur dans votre vie. Si Dieu vous aime, il nous aime. Il veut notre bien et rien que notre bien. Comme on le voit dans l'évangile Matthieu 18, des 12 à 14, trois choses à retenir dans cet évangile. Dieu ne néglige personne, c'est la première chose. Il est semblable à ces bergers qui a 100 brebis. À cause d'une seule brebis perdue, il laisse les 99 et va suivre celle qui est perdue. Nous nous réfléchissons en termes de minorité et majorité. Et nous suivons la majorité. C'est tout. Dieu ne réfléchit pas comme cela. Il ne voudrait pas sacrifier la minorité. Il veut que tout le monde soit sauvé. Majorité et minorité, pour lui, ça n'existe pas. Pour lui, nous sommes tous son peuple. Qu'on soit du côté de la minorité, majorité, non. La brebis égarée est minoritaire. 1% simplement. Il en a 100 et celui qui est parti, celle qui est partie, c'est 1%. Dieu dit non. Non. Ne sacrifions pas la minorité. Nous devons aussi sauver cette brebis égarée. Ça, c'est Dieu. Il ne néglige personne. Dieu veut que vous soyez sauvés. Vous traversez peut-être des moments difficiles. Vous avez l'impression que personne ne s'occupe de vous. Vous êtes abandonnés. Nos frères qui sont en prison, souvent ce sont des témoignages. Quand quelqu'un va en prison, quand ça prend des années, on commence à l'oublier. On commence vraiment à l'oublier. Parfois même sa femme commence à l'oublier, ses propres enfants. Et c'est une expérience qui est terrible, c'est dur. Il y a quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez commis dans la vie, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, c'est Dieu. Cette brebis est égarée. On peut dire qu'elle s'est égarée par sa propre faute. Mais Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Les humains peuvent oublier leurs semblables, leurs membres de famille, surtout s'ils sont en difficulté, même parfois ceux qui sont dans des hôpitaux. Si la maladie a duré un certain moment, les gens commencent à se fatiguer. Ils venaient vous rendre visite régulièrement, certainement ils commencent à se fatiguer. Non, Dieu ne se fatigue pas de vous. Il ne se fatigue pas de vous. C'est l'évangile d'aujourd'hui, la brebis égarée. Dieu va chercher cela. Ça, c'est la première chose. Dieu s'occupe de tout homme. Il ne néglige personne. Et soyez dans la joie, dans l'allégresse, parce que Dieu s'occupe de vous. Il pense à vous. La deuxième chose à retenir, c'est la joie. À cause de cette brebis-là qui est revenue, les bergers, les pasteurs sont dans la joie. Et Jésus explique cela en disant, la conversion d'un pécheur est cause, source de joie au ciel. Voilà pourquoi j'ai dit, faites plaisir au Seigneur. Il n'y a pas que nous qui avons besoin d'être joyeux, d'être heureux. Dieu aussi, nous devons penser à lui et le rendre heureux. Nous le rendons heureux par notre conversion. Si nous nous convertissons, nous rendons Dieu heureux. Donnons la joie à Dieu, qu'il soit heureux. Ne pensons pas qu'il est un être insensible. Peu importe ce que nous faisons, ça lui dit rien. Non, Dieu souffre de nos égarements, de notre méconduite, de nos comportements indignes. Dieu en souffre. Et Dieu est aussi heureux. Il est dans la joie s'il voit que nous faisons l'effort de la conversion, l'effort de nous approcher de lui. Faisons un effort, surtout durant ces temps de l'Avent, donnons la joie à Dieu. Comme c'est dit dans cet évangile à la fin, la conversion d'un pécheur est source de joie au ciel. Et enfin, imitons le Seigneur. Imitons le Seigneur. Le Seigneur est semblable justement à ce pasteur qui va suivre une brebis égarée. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mes frères durant ce temps de l'Avent? Il y a peut-être aussi des frères qui ont besoin de revenir vers le Seigneur. Ces gens-là que vous critiquez au boulot, dans votre famille, là où vous vivez, vous critiquez certaines personnes. Vous parlez d'eux parce que justement, ils ne prient pas. Ils sont loin du Seigneur. Vous parlez d'eux. Vous critiquez, mais vous ne parlez pas avec eux pour les aider à revenir au Seigneur. Le Seigneur pourra vous en demander compte un jour. Après avoir écouté cette parole, surtout après avoir admiré ce pasteur qui va à la recherche d'une brebis égarée, eh bien, assumons la même mission à l'égard de nos frères et sœurs qui sont autour de nous et qui ont besoin de conseils. Ils n'ont pas besoin d'être critiqués. Ils n'ont pas besoin qu'on parle d'eux négativement, alors que nous pouvons les approcher pour leur donner des conseils. Voilà le travail que nous avons, les devoirs que nous avons d'aller à la recherche de la brebis égarée. La brebis égarée reviendra vers le Seigneur grâce à vous et moi. Le Seigneur nous confie cette mission. Ce n'est pas lui qui va descendre du ciel pour ramener auprès de lui des brebis égarées. C'est l'Église qui doit le faire et l'Église c'est vous et moi. Aidons le Seigneur à récupérer cette brebis et qui est en dehors de l'enclos. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.